Bonjour à tous, mardi 2 octobre 2018. J'espère que vous êtes confortablement installés pour cette heure d'émission que nous allons passer ensemble. Bienvenue dans les voies de service, je suis Louis de Bernis. Et nous allons passer les 60 prochaines minutes ensemble avec des articles tirés de l'actualité, des articles intéressants, je laisse certains. Je suis un petit peu mouillé, je suis arrivé en marchant. J'espère que vous êtes au chaud, au sec, et nous allons tâcher de rendre ce ciel un peu plus bleu, un peu plus ensoleillé ce matin. Qu'ai-je donc à vous proposer ? Eh bien, des nouvelles assez animalières. Oui, les animaux animent parfois l'actualité de leurs escapades pour certains, comme ce beluga qui est égaré dans la Tamise en ce moment à Londres. Il en a fait du chemin. Nous parlerons, puisque nous sommes à Londres, eh bien restons-y, nous parlerons également de Madame Meghan Clark. Vous avez sûrement entendu parler d'elle, puisque son mariage récent a été retransmis à la télévision pour le plus grand bonheur des Britanniques. Eh bien, elle fait parler d'elle pour une bonne raison, pour une histoire de portière de voiture, et la Grande-Bretagne est en émoi, il en faut peu parfois. Une autre qui est peut-être en émoi, d'autres personnes qui sont peut-être en émoi, sont celles qui ont vu la paire de chaussures à 17 millions de dollars exposée à Dubaï en ce moment. Ça brille, et ça c'est certain, je vous en parlerai. Et puis nous aurons d'autres petites brèves, peut-être également verrons-nous mon collaborateur, mon acolyte Yves Olivier débarquer. Nous verrons, cette émission promet d'être pleine de surprises comme d'habitude. Restez avec nous. Ça commence, c'est parti. Partons donc à Londres directement pour commencer cette émission et parlons d'un beluga dans la Tamise. Ça n'est pas courant, c'est donc à l'ordre du jour pour moi, pour mes nouvelles insolites. Un beluga, c'est assez habituellement observé dans l'océan Arctique, évolue dans les eaux de la Tamise où il nage avec vigueur et se nourrit normalement, a indiqué mercredi la Société Royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux. L'animal a été repéré mardi à proximité de Gravesend dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Il fait l'objet d'une surveillance de la Société pour la préservation des baleines et des dauphins, la WDC, une ONG britannique qui milite pour leur protection et craint qu'ils ne viennent s'échouer sur les rivages du fleuve. Pour le moment, il n'y a aucune préoccupation majeure pour le bien-être de l'animal, a toutefois déclaré la RSPCA, soulignant dans un communiqué que le cétacé semblait capable de se déplacer rapidement dans l'eau et de plonger. À la suite de notre demande aux gardes-côtes londoniens, nous sommes heureux de constater que les bateaux du coin se sont éloignés de l'animal. Les cétacés ont une ouïe sensible et sont très facilement stressés. Les belugas, qui peuvent atteindre une taille de 6 mètres, évoluent généralement dans les eaux glacées autour du Groenland et au nord de la Norvège et de la Russie. Espèce sociable, ils se déplacent en banc, rendant la découverte d'un individu isolé loin de son habitat naturel préoccupante, selon Rob Lott, spécialiste des mammifères marins au sein de la WDC. Nous espérons que son instinct va lui permettre de quitter le fleuve et de repartir vers la mer du Nord, puis encore plus au nord, a-t-il expliqué. Plus il restera longtemps dans la Tamise et plus l'inquiétude sera grande, a-t-il dit. Le porte-parole de la WDC, Danny Groves, estime de son côté que l'animal était perdu et qu'il avait très probablement besoin d'aide. L'Organisation des plongeurs britanniques pour la sauvegarde des espèces marines a annoncé qu'elle envoyait sur place l'un de ses membres pour évaluer la situation. Elle dispose de pontons qui peuvent être utilisés pour remettre à l'eau des animaux échoués. Un porte-parole de l'organisation a souligné que l'apparition d'un tel animal dans la Tamise était un événement rare et a appelé le public à l'observer seulement depuis la rive, sans essayer de s'en approcher en bateau. En 2015, souvenez-vous peut-être, deux belugas avaient déjà été observés au large du comté de Northumberland, au nord de l'Angleterre, tandis qu'un autre avait été aperçu près des côtes de l'Irlande du Nord. En 2006, c'était une baleine qui était malheureusement morte après avoir remonté la Tamise jusqu'à Londres, malgré les efforts déployés pour tenter de la sauver. Voilà donc pour ce beluga qui se promène actuellement dans la Tamise. Espérons que les efforts déployés par les sauveteurs en ce moment permettront de le ramener au large vers son habitat naturel. Voilà, au calme. « puisque nous sommes au Royaume-Uni, restons-y, comme ça le sujet sera bouclé. Et parlons de Madame Meghan Clark. Et Madame Meghan, elle ébahit les Britanniques en faisant quoi ? Eh bien, en fermant elle-même sa portière de voiture. Ça paraît singulier, et pourtant, ça a fait du bruit. Le geste peut paraître terriblement banal, mais il suscitait pourtant des commentaires stupéfaits mercredi au Royaume-Uni. Meghan, la duchesse de Sussex, a refermé elle-même sa propre portière de voiture. La scène se passe mardi à la Royal Academy of Arts de Londres, où Meghan, l'épouse du prince Harry, doit assister à l'ouverture d'une exposition sur les arts et la culture de l'Océanie, son premier engagement officiel en solo. Une luxueuse berline noire s'arrête devant le bâtiment, la duchesse de 37 ans en sort, et contrairement aux habitudes dans ce genre de situation, elle referme elle-même la porte du véhicule d'un geste parfaitement naturel et semble-t-il sans y prêter une attention particulière. Dans un pays où la vie des membres de la famille royale est constamment scrutée à la loupe, cet épisode n'a pas manqué de déclencher une avalanche de commentaires. C'est typiquement quelque chose que la reine et Kate Middleton, la belle-sœur de Meghan, ne feraient jamais en public, soulignait le tabloïd The Mirror. Certains n'hésitaient pas à y voir le signe que l'ex-actrice américaine est restée une femme simple malgré son mariage en mai avec le prince Harry, le petit-fils d'Elisabeth II, qui lui a valu son titre de duchesse, mais aussi toute une série de contraintes en raison de son entrée dans la famille royale. Une princesse qui prend encore le temps de fermer sa portière, bien joué Meghan, a tweeté Emily Andrews, correspondante royale du quotidien The Sun. D'autres se montraient en revanche plus circonspects. Quant à l'importance accordée à l'épisode, qui figurait en tête des articles les plus lus sur le site internet de la BBC. Nous nous souviendrons tous de l'endroit où nous étions lorsque nous avons appris que Meghan Clark a fermé sa portière. Ma vie a définitivement basculé, ironisait Jess sur Twitter. Histoire de ramener tout un chacun à la raison, l'expert en étiquette William Hanson soulignait de son côté que Meghan n'a en aucun cas transgressé le protocole royal, et que la duchesse a agi par réflexe. Habituellement, les membres de la famille royale et les dignitaires ont quelqu'un pour ouvrir et fermer les portes de leur voiture pour des raisons de sécurité. Ça n'a rien à voir avec un comportement de princesse. Meghan a clairement fermé la porte par habitude, a-t-il expliqué sur son compte Twitter.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs. La caissière vous noie au passage, prenez-en cède de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même, cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
On le connaît, l'air du plastique. C'est la rengaine du quotidien, celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent, ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans.
100 ans.
Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Cette terre a vu enfanter, quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages, la musique est partout immonde. Cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage.
La formation Trio, l'ère du plastique.
Et je vous l'annonçais en début d'émission, la surprise s'est produite. Mon compère Yves Olivier nous a rejoint dans le studio. Bonjour Yves Olivier.
Bon matin.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, un peu mouillé mais ça va.
Un peu mouillé mais nous ne sommes pas en sucre heureusement, nous sommes bien entiers dans le studio. Je vous laisse la parole sans plus tarder. De quoi allez-vous nous parler ?
Alors pour débuter, on décolle, on quitte le Royaume-Uni, on s'envole vers le Zimbabwe. Les autorités là-bas vont transférer 10 rhinocéros blancs vers la RDC, la République démocratique du Congo. L'opération sera effectuée conformément au protocole de transfert de la faune locale et internationale, en particulier le plan de conservation des rhinocéros d'Afrique. Elle vise entre autres à élargir l'aire de répartition régionale de cette espèce, indique un communiqué de ZimPark, l'autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe. Les 10 rhinocéros sont en provenance de 3 parcs du Zimbabwe, le parc du lac Chivero, le parc de loisirs Kyle et le parc national Matopos. Selon ZimPark, le transfert vise aussi à renforcer le programme régional de conservation des rhinocéros. Selon le groupe de spécialistes des rhinocéros de l'UICN, 98% de la population mondiale des rhinocéros blancs se trouve dans 4 pays seulement, à savoir l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe et le Kenya. Ainsi, le Zimbabwe est l'un des principaux pays de l'aire de répartition du rhinocéros blanc qui se propose comme source d'expansion de l'aire de répartition du rhinocéros dans d'autres pays ou parties privées, indique le communiqué. L'autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe précise que le transfert se fait dans le respect des protocoles locaux et internationaux de transfert de la faune, en particulier les lignes directrices de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sur la pré-translocation des rhinocéros et le plan de conservation des rhinocéros africains des états de l'aire de répartition du rhinocéros en Afrique. D'après ZimPark, le transfert est effectué pour 3 raisons. Premièrement, étendre l'aire de répartition régionale des rhinocéros. À ce sujet, explique-t-on, l'élargissement des aires de répartition des rhinocéros nationales et régionales est l'un des objectifs du plan de conservation de cet animal en Afrique. L'exercice est un effort délibéré pour renforcer la sécurité et la prolifération génétique de l'espèce au niveau régional. La deuxième raison, indique-t-on, est liée aux preuves de la réussite de la conservation des rhinocéros au Zimbabwe, l'un des principaux pays de l'aire de répartition du rhinocéros dans le monde, qui a connu une croissance démographique régulière des rhinocéros blancs et noirs. La troisième raison évoquée est celle de l'état de braconnage et de la sécurité des rhinocéros en République démocratique du Congo. Pour ZimPark, le gouvernement zimbabwéen est conscient que la RDC a perdu sa population des rhinocéros blancs du Nord à l'extension, en grande partie à cause du braconnage. Cependant, précise-t-on, pour cet exercice, une évaluation scientifique et de gestion de la sécurité, ainsi que de l'application de la loi et de la prolifération biologique potentielle des rhinocéros, ont été effectuées pour éclairer les exigences du transfert. Pour finir, depuis que le rhinocéros blanc du Nord a disparu en RDC, il n'y a pas de crainte de dilution des gènes avec les rhinocéros destinés à être transférés du Zimbabwe. Le statut de sécurité et d'application de la loi du bien récepteur a été évalué sur la base des exigences locales, le Zimbabwe, et internationales, les lignes directrices de l'UICN avec le transfert.
Et puisque vous nous parlez d'un animal exotique, eh bien, je surenchéris, j'ai presque l'impression de jouer au poker avec vous. Je vous en propose 400 des animaux et 400 dans une même maison, qui vivent avec un homme, pas tout seul. Pour la plupart des gens, partager un salon avec un alligator de 2 mètres de long est un cauchemar. Eh bien, c'est le contraire pour le français Philippe Gillet, qui vit chez lui avec 2 de ses bêtes. Baptisés Ali et Gator, ils habitent la maison de l'homme de 67 ans avec des centaines d'autres créatures, dont certaines des espèces les plus craintes de la nature, des crotales aux tarentules. En 2 décennies, l'herpétologiste, voilà, spécialiste des reptiles, a réuni une collection de 400 animaux dans sa maison au bord de la Loire en France. Un cobra vit dans la table basse, une tortue de 50 kilos parcourt le jardin, et la nuit, Ali, l'alligator dominant de la paire, dort avec Monsieur Gillet, tandis que Gator surveille la porte. Monsieur Gillet dit que les alligators ont été sauvés d'une ferme de cuir, mais la plupart des autres animaux sont des animaux de compagnie qui ont été donnés ou abandonnés. Philippe Gillet était un chasseur, mais un changement de cœur lui a fait jurer de protéger la nature et d'éduquer les gens. 20 bénévoles travaillent pour son association Infaune, qui organise 3 à 4 journées par an dans des centres commerciaux en France pour sensibiliser les gens. Dans son sous-sol, les murs sont tapissés de vivariums remplis d'animaux. Monsieur Gillet dit avoir tous les permis nécessaires pour garder et transporter ces animaux. Il assure aussi que les serpents les plus dangereux sont gardés dans une pièce derrière 2 portes. Selon lui, les habitants de son village ne se soucient pas que leurs voisins inhabituels, de leurs voisins inhabituels, et ils viennent régulièrement les visiter. Néanmoins, les pompiers locaux sont plus prudents. Ils ont ainsi reçu l'ordre de ne pas entrer chez lui, même en cas d'urgence.
On te l'annonce un soir d'avril. Tu croyais pourtant ne pas t'être découvert d'un fil. Tu te rappelles que sortir couvert n'était plus qu'une option après tes quelques verres. Juste une dernière fois, pour une dernière avant que l'on te jette. Juste une dernière fois, à tes pulsions te pousser et te pèse. Le maladie vit, le maladie reste. Même si t'as mal et que t'es en miettes. Le maladie rit, la maladie reste. Pour une dernière avant que l'on te jette. En l'air sans capter que c'est ton histoire qui va s'envoler. Juste une dernière fois, pour une dernière avant que l'on te jette. Juste une dernière fois, à tes pulsions te pousser et te baise. Le maladie vit, le maladie reste. Même si t'as mal et que t'es en miettes. Le maladie rit, la maladie reste. Pour une dernière avant que l'on te jette. Allez deux se désirer en mourir, mais ne désirez pas crever. Allez deux se désirer en mourir, mais ne désirez pas crever.
Le mal a dit par Fowey.
Parlons de mode. La mode éco-responsable qui fait fureur. Les feuilles d'ananas servent désormais à fabriquer sacs et blousons. Le cuir est tanné avec un agent naturel issu des oliviers méditerranéens. Des bouteilles en plastique sont recyclées en semelles de baskets qui se vendent à 1 million d'exemplaires. Marginale, il y a quelques années, la mode éco-responsable fait fureur, tirée par des jeunes créateurs et des grandes marques de luxe. Cela a totalement changé ces dernières années. On avait, il y a 5 ans, une image très passéiste, un petit peu babacool du vêtement durable. Analyse Marina Coutelan, chef de projet mode de Première Vision, salon parisien de l'amont et de la filière mode, qui se tient du 19 au 21 septembre à Villepinte, au nord de Paris, et qui offre cette année un espace dédié aux innovations éco-responsables. Avec l'arrivée de toute la génération des milléniaux, nés entre 1980 et 2000, qui sont nés donc et ont grandi avec cette conscience éco-responsable, on voit des produits tendance conçus avec des matériaux responsables, explique-t-elle à l'AFP. À l'image de cette veste style Chanel exposée au salon, faite de laine classique et de sachets en plastique découpé et signé Botter, un duo néerlandais qui avait remporté en avril le grand prix du jury Première Vision du festival de mode d'hier, tremplin de la jeune création, et qui vient d'être nommé à la direction artistique de Nina Ricci. La mode durable, c'était quelque chose dont on avait entendu parler. Maintenant, on peut la voir, dit Lizzie Herbre, 28 ans. Avec son partenaire Rushmi Butter, 32 ans, originaire de l'île des Caraïbes, Curaçao, elle fabrique chapeaux, écharpes et vestes à la base de sacs et bouteilles en plastique recyclé, une manière de lutter contre la pollution des océans. Présentées au stand dédié au look innovant et éco-responsable, les baskets Adidas Parley, faites à partir de plastique recyclé, ont été vendues à 1 million d'exemplaires depuis 2015, souligne Marina Coutelan. Les façons de faire des vêtements durables sont multiples. La créatrice française Marine Serre, 26 ans, lauréate du prix LVMH, propose un top en polyamide recyclé et une jupe en foulard récupéré pour une allure féminine et ultra-moderne. La Britannique Bethany Williams, 19 ans, décore un tailleur pantalon de papier journal découpé. La Canadienne Marie-Ève Le Cavalier, 30 ans, lauréate du prix Chloé et finaliste du festival d'hier, a inventé des tricots de cuir à motifs entrelacés. Cette technique permet d'utiliser des chutes de cuir qu'elle récupère dans des tanneries ou des pots endommagés rejetés par les marques de luxe. Placer, découper ces morceaux, c'est beaucoup de travail, mais le résultat est là. En Amérique, les gens dépensent et gaspillent énormément. Il faut trouver des solutions, déclare-t-elle à l'AFP. Si la Canadienne préfère le vrai cuir, il existe aussi Pignatex, une alternative fabriquée à partir de fibres de feuilles d'ananas, qui donne un matériau aussi souple et robuste que le cuir traditionnel élaboré par l'entreprise britannique Ananas Anam. Le groupe travaille avec des coopératives fermières basées aux Philippines, à qui elle achète des fibres issues des feuilles qui entourent le fruit lors de sa récolte. Cette matière a déjà inspiré Hugo Boss pour des baskets ou Lancel pour des sacs. L'entreprise Wet Green a développé la ligne Oliven Leather, des cuirs biodégradables tannés à la fibre d'olive à l'aide d'agents végétaux brevetés. Cet agent, vous pouvez même en manger, plaisante Thomas Lampater, représentant du groupe allemand qui travaille avec des producteurs d'olives méditerranéens. Les maisons de luxe tirent l'industrie, la deuxième la plus polluante au monde, dans le bon sens, souligne Marina Coutelan, citant le groupe français Kering, qui ont Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, qui a déjà réduit son impact environnemental de 25% et repoussé ses objectifs à 40% à l'horizon 2025. Les galeries Lafayette ont lancé fin août Go for Good, un mouvement pour une mode plus responsable, avec Stella McCartney, marraine de la manifestation, qui travaille dans des matériaux éthiques, sans fourrure ni cuir, et qui a créé une collection capsule pour cet événement. Pour Chantal Malingray, responsable du marketing de Première Vision, on n'est pas encore dans la banalisation de la mode durable, mais le nombre d'innovations faites au cours des dernières années rend cette tendance irréversible.
Puisque nous sommes dans la mode, eh bien restons-y, c'est le début du mois, donc c'était la fin du mois de septembre plutôt, il y a quelques jours. Peut-être vous restait-il sur votre compte en banque, Olivier, quelques économies pour faire un cadeau. Eh bien j'ai une idée cadeau, si jamais il vous restait sur votre compte en banque, 17 millions de dollars américains, une petite idée pour vous, voilà, une paire de chaussures. Une paire de chaussures faites de cuir, de soie, d'or et de diamants est proposée à la vente à Dubaï pour la modique somme de 17 millions de dollars américains. un record absolu selon les organisateurs. La paire d'escarpins à talons aiguilles est exposée depuis mercredi au Burj Al Arab, l'un des palaces de la cité-état du Golfe, qui cherche constamment à battre tous les records. Les chaussures ont été conçues et créées en Italie avec, tenez-vous bien, 236 diamants ainsi que deux diamants sans défaut D de 15 carats chacun. Dubaï est une ville de millionnaires et de milliardaires. Il y a un marché potentiel dans toute la région du Golfe et particulièrement en Arabie Saoudite pour ce type de produit, a expliqué à l'AFP Emmat Kamram Chandi, le joaillier derrière cette création. Une petite brève avant de marquer une courte pause. Partons au Chili avec des chiens de policiers un peu particuliers. Ce sont les plus petits soldats qui ont volé la vedette lors du défilé militaire annuel du Chili le 19 septembre dernier. Un groupe de 9 chiots Golden Retriever a défilé aux côtés de leur maître. Ces chiots de 45 jours sont les nouveaux membres de l'unité de formation canine de la police nationale. Ils étaient portés dans les bras des entraîneurs qui les maintenaient au chaud avec des radiateurs. Ils ont défilé avec d'autres chiens de l'unité canine et des membres des forces armées du Chili, ainsi que des soldats de plusieurs pays invités à participer à cet événement. Vous vous en doutez, les enfants étaient ravis. Nous marquons une courte pause de petites annonces, mais ne bougez pas, nous sommes de retour juste après avec Yves Olivier. Pour encore plus de sujets en tout genre, restez avec nous, à tout de suite. Voilà, de retour pour cette deuxième partie de l'émission. Yves-Olivier, de quoi allons-nous parler dans cette deuxième partie de votre côté ?
Nous parlerons de la lumière du soleil comme énergie renouvelable et de la mode des fleurs séchées. Mais on commencera par l'ABC des salades.
L'ABC des salades, ouais. Décidément, nos sujets sont liés. Je vais également parler un peu d'alimentation aujourd'hui. Alors pas de salade, je parlerai plutôt de champagne, le champagne de l'espace. Ben oui, il faut que ce soit étonnant quand même. Je parlerai également de pizza, des pizzas dans l'armée américaine, c'est très sérieux. Et puis nous aurons probablement le temps de parler également de cet homme qui a fait le tour du monde sans bouger de chez soi. Vous verrez dans quelques instants dans les voies de service.
Iris Gagnon, Paradis, de La Presse, qui nous parle de l'ABC des salades. Créer une bonne salade, c'est loin d'être sorcier. La clé pour en concevoir une et qui est à la fois appétissante et nourrissante réside dans la combinaison des différents éléments qui la composent. À partir des éléments de base, il est possible d'obtenir des variations à l'infini. Suivez-nous à travers ce guide. Que faut-il pour que votre salade non seulement vous laisse repu, mais soit délicieuse au point que vous la dévoriez jusqu'à la dernière bouchée ? Nous avons posé la question à Diane Solomon, chef propriétaire entre autres du réputé Olive Gourmando, qui propose des salades du jour qui sont toujours originales et succulentes. Le secret, selon moi, c'est une balance entre les différentes textures et saveurs. C'est essentiel d'avoir du croquant, mais aussi du sucré, du salé, de l'acidité et de la variété, ce qui fait que chaque bouchée est intéressante et qu'on ne se tanne pas de manger notre salade après 5 bouchées. Pour créer une salade intelligemment, faites comme la chef. Elle décline toute cette salade en partant d'un thème. Est-ce que ce sera une salade automnale, d'inspiration méditerranéenne ou plutôt asiatique ? Avoir une idée claire permettra ensuite de choisir les différentes composantes et la vinaigrette en fonction de cette ligne directrice. Mais pour créer une salade qui ne vous laissera pas sur votre faim, il faut d'abord connaître ses incontournables éléments de base. Que serait une salade sans ses légumes? En fines tranches, en rubans, en cubes, blanchis ou rôtis, ils ajoutent des textures, de la saveur et de la couleur, tout en vous permettant de faire le plein de vitamines et de minéraux. L'important, un assortiment de textures, oui, mais aussi de couleurs. En variant les couleurs, on s'assure d'avoir une variété de plusieurs vitamines, minéraux et antioxydants contenus dans les légumes. Pas nécessaire de se mettre à tout calculer, conseille Caroline Cloutier, nutritionniste en cabinet privé de la région de Québec. Du vert, tout d'abord, épinards, mesclums, choux frisés, cressons, diverses laitues, romaines, bostons frisés. Du croquant, carottes, céleri, radis, poivrons, choux. Du juteux, tomates, concombres, courgettes. Du tendre, asperges, fèves vertes, champignons, maïs, petits pois. De l'onctueux, avocat, pommes de terre, courge, patates douces. De l'amertume, endives, radicchios, fenouil, roquettes, choux de Bruxelles. Quelques astuces. Des légumes grillés ajoutent beaucoup de personnalité aux salades. On les prépare à l'avance le week-end en coupant patates douces, aubergines, courges en petits cubes qu'on enrobe simplement d'huile, de sel et de poivre avant de les mettre une quinzaine de minutes au four à 400 degrés Fahrenheit. Les féculents maintenant. Ils rendent votre salade plus complète et nourrissante et ajoutent texture et saveur à vos compositions en plus de fournir des glucides complexes et des fibres à l'organisme. Les produits céréaliers fournissent de l'énergie tout au long de la journée. Si possible, on privilégie des produits céréaliers à grains entiers plus complets tout en respectant ses goûts. Donc Madame Cloutier, c'est elle qui note ça, aime particulièrement le quinoa et le riz sauvage, deux grains protéinés. Quant à Diane Solomon, elle aime utiliser les nouilles de style soba dans une salade de type asiatique, la version 100% sarrasin et sans gluten, ou encore du couscous d'épeautre. Quelques possibilités, les grains, quinoa, orge, millet, riz brun, riz sauvage, faro, épeautre, boulgour et semoule. Les pâtes, orzo, nouilles, soba, couscous israélien, farfal et fusilli. Les autres, c'est les pommes de terre, patates douces, maïs et légumineuses. Pour gagner du temps, les soirs de semaine, on cuit le week-end plusieurs portions de grains et de pâtes différents qu'on ajoute simplement à ses salades selon l'inspiration du moment. Les protéines, animales ou végétales, assurent que votre salade sera assez résistante pour que vous finissiez votre journée de travail sans aller faire un tour à la machine distributrice. Les protéines vont ralentir l'absorption et l'utilisation des glucides, bref, elles prolongent la sensation de satiété entre les repas. Cette dernière suggère donc Madame Cloutier de ne pas hésiter à choisir des protéines végétales qui ont l'avantage de contenir également des fibres, comme les edamamés, fèvre de soya, qu'elles aiment pour leur côté croquant et leur préparation hyper rapide. Quelques autres possibilités donc au niveau animal, poulet grillé, saumon fumé, œufs cuits durs, crevettes, thon en boîte, jambon, bacon, pancetta, tranches de bavette grillée et fromage. Végétal, on parle de lentilles, pois chiches, edamame, tofu grillé, boules de falafel, fèves noires, tempeh et noix. Alors une fois quelques astuces, n'hésitez pas à faire mariner vos protéines, poulet, tofu, tempeh, durant la nuit avant de les faire griller pour des salades qui ont plus de punch, suggère Diane Solomon. Au niveau des accompagnements, une fois votre base déterminée, il suffit d'ajouter différentes saveurs et textures afin de créer une salade tout sauf ennuyeuse. Avec du croquant, noix, donc pacane, noix de Grenoble, amandes, cajou, noix de macadam, noix du Brésil, pistache, arachide, ou des graines de citrouille, de tournesol, de sésame, de chanvre, de pavot, ou encore des fruits, grains de grenade, poire asiatique, pommes. Quelques astuces pour des graines et noix délicieuses, on les refait d'abord rôtir au four ou à la poêle à sec, ce qui permet de faire ressortir les saveurs tout en les rendant bien croustillantes. Un peu de fraîcheur, des fines herbes comme l'aneth, coriandre, menthe, persil, italien ou frisé, basilic, des pousses, radis, brocolis, luzerne, roquette, ou encore des agrumes, citron, lime, orange, pamplemousse en jus, en zeste ou en morceaux. Enfin, une autre astuce de l'avis de la chef Diane Solomon, on met souvent trop d'herbes dans nos salades. Vous pouvez en mettre deux fois plus que vous le croyez. Les herbes, ça rajoute tellement le goût, n'hésitez pas à mélanger différentes variétés. Encore une fois, elle propose de l'onctueux, comme du fromage, feta, cheddar, provolone, avarti, gouda, fumé, halloumi grillé, bocconcini, fromage de chèvre, ricotta, ou autres, tels que les œufs cuits durs, avocats, sauce et trempette d'accompagnement, yogourt, houmous, guacamole, tzatziki, baba ganouche. Malgré une idée reçue, le corps a besoin des matières grasses contenues dans les fromages, les œufs et les avocats par exemple. C'est intéressant d'avoir du gras dans une salade, les matières grasses jouent plein de rôles essentiels, explique Caroline Cloutier. On peut intégrer de l'oignon cru dans une salade, il suffit de le couper très fin, ce qui permet d'ajouter subtilement de la saveur à l'ensemble, conseille Diane Solomon. Les aliments marinés ou épicés sont à utiliser avec parcimonie pour une saveur qui reste balancée. En plus des fruits, une bonne façon d'ajouter une petite touche sucrée à ces salades est d'intégrer un agent sucrant, miel, sirop d'érable ou d'agave, à ces vinaigrettes ou à des noix grillées qu'on vient de caraméliser. Faire une vinaigrette maison vous intimide, nez et crainte, c'est assez simple. Un mélange bien balancé d'acidité, de corps gras et d'assaisonnement. Diane Solomon nous révèle ses trucs pour une vinaigrette réussie qui rehaussera vos salades à tout coup en 4 étapes. Pour bien voir ses proportions, on prépare la vinaigrette dans un pot maçon transparent. Première étape, les acides. On choisit un vinaigre qui s'agence à notre salade. On ajoute ensuite les assaisonnements, moutarde de Dijon, ail, échalotes grises, oignons, tranches très finement, coupées très finement, gingembre, épices diverses. Viennent alors les corps gras, comme l'huile flotte, on ajoute celle de notre choix, olive, avocat, sésame grillé, grameline, directement sur le mélange vinaigré. Ensuite, il suffit d'émulsionner la vinaigrette en fermant le pot maçon et en le secouant vigoureusement. Et le tour est joué.
Parlons à présent de ce qui se trouve non pas dans l'assiette, mais dans la flûte de champagne. Le champagne prêt à se lancer à la conquête de l'espace. C'est le titre de cet article tiré du Soleil. Boire du champagne dans l'espace, c'est désormais possible, du moins techniquement. Un jeune designer français a conçu une bouteille spéciale pour permettre à ce breuvage festif de s'accommoder de la pesanteur. Elle a été plus tôt présentée il y a 2 semaines, mercredi, lors d'un vol de l'Airbus 0G, zéro gravité, qui a décollé de Reims et a enchaîné une série de paraboles pendant lesquelles l'appareil était brièvement en apesanteur plusieurs fois de suite. Plusieurs de ces bouteilles spatialisées, entre guillemets, remplies de champagne même grand cordon, ont été débouchées pour des journalistes de divers pays invités à le goûter dans les conditions de l'espace. Cette innovation ne devrait pas profiter aux astronautes professionnels, du moins pas pour le moment. L'alcool est officiellement interdit à bord de la Station Spatiale Internationale, rappelle le spationaute Jean-François Clairvoy. Mais elle pourrait bénéficier aux futurs touristes spatiaux qui effectueront des vols suborbitaux et orbitaux dans les années à venir. Ils n'auront pas à réaliser des tâches professionnelles à bord et ils auront donc sans doute le droit de boire un peu d'alcool. En l'absence de gravité, le champagne n'a aucune raison de s'écouler de la bouteille qui l'abrite, même si on la retourne. On pourrait imaginer de l'aspirer à la paille, mais cela ne ressemblerait pas au rituel de dégustation qui entoure ce vin effervescent. L'équipe s'est voulue plus ambitieuse. Fondateur de l'agence SPAD, spécialisée dans le design d'objets spatiaux, Octave de Gaulle, arrière-petit-neveu du général de Gaulle, a travaillé près de 3 ans pour adapter la dégustation du champagne aux contraintes de l'espace. Le premier défi consistait à faire sortir le champagne de son contenant. Le jeune homme a conçu une bouteille en verre transparent avec 2 parties. La cavité supérieure est remplie de champagne, vin effervescent qui contient du gaz dissous, et la cavité inférieure est dotée d'un mécanisme de service avec un détendeur actionné au doigt qui va permettre à la bouteille sous pression d'éjecter de petites quantités de champagne. Autre défi, il fallait qu'une fois sorti, le champagne soit aussitôt capturé, car en l'absence de gravité, un liquide flotte dans la cabine et se met en boule. C'est exactement ce qui se passe dans l'album de Tintin « On a marché sur la Lune » lorsque le whisky du capitaine Haddock prend la forme d'une sphère. Octave de Gaulle a dessiné un anneau en aluminium qui coiffe la bouteille et permet d'attraper la mousse de champagne. Ensuite, je pivote la bouteille et la boule de mousse va se libérer, raconte le designer. Les buveurs doivent alors approcher une petite coupe à la tige fuselée spécialement dessinée afin d'attraper au vol cette boule, un moment ludique. Boire du champagne en apesanteur, cela ne s'était jamais fait, assure Jean-François Clairvoy. Et c'est différent de la dégustation sur Terre, remarque l'astronaute de l'Agence spatiale européenne qui a goûté ce champagne lors de tests à bord de l'Airbus zéro gravité. Dans la bouche, la mousse se transforme en liquide, c'est assez magique, car le champagne se dépose non seulement sur la langue, mais il tapisse aussi le palais, les joues, les sensations gustatives sont renforcées, c'est un plaisir supplémentaire. Octave de Gaulle entend encore améliorer son prototype afin que la bouteille rencontre toutes les exigences pour pouvoir être envoyée dans l'espace. Reste donc pour MUM, la société, à trouver un partenaire spatial, public ou privé. Pour sa part, Octave de Gaulle rêverait que des astronautes puissent aussi déguster ce champagne, par exemple, bien pour célébrer le 31 décembre. Il déclare « Il y a toujours eu un peu d'alcool dans l'espace, même si c'est officiellement interdit », assure-t-il. Les Russes ont la réputation d'être plus tolérants que les Américains sur ce point.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
oui,
pour gravir,
oh oui,
le sommet. En oubliant,
oubliant,
souvent
dans
ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Accord perdu,
j'ai couru,
assoiffé,
assoiffé,
obstiné,
vers l'horizon,
l'horizon,
l'illusion,
l'illusion,
vers l'abstrait,
l'abstrait,
en sacrifiant. C'est d'avant, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage.
Tout.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Ah oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge.
Bien sûr.
Où l'argent, c'est dommage et peronne nos jours. Pour être fier,
fier,
je suis fier.
Fier
entre nous,
je l'avoue.
J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai.
Pas tout à fait.
Pour retrouver,
je l'admets.
Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations.
Ah, mes relations.
Sont
vraiment sont
haut placés,
très haut placé,
décoré,
très décoré,
influent,
très influent,
bedonnant,
très bedonnant,
des gens bien,
très très bien,
ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près de,
tout près de,
j'ai toujours le regret de, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance.
Oui.
Mes amours avaient le corps brûlant.
Oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Les canulars,
les pétards,
les folies,
les orgies,
les jours du bac,
le cognac,
les refrains.
Tout ce qui fait,
je le sais,
que je n'oublierai jamais.
Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes.
Mes emmerdes par Charles Aznavour.
À la fin de l'été, les bouquets de fleurs séchées entrent dans les maisons. Longtemps restées dans l'ombre des plantes vertes, celles-ci font leur grand retour en semant passage une poésie subtile. La presse est allée à la rencontre de passionnés qui cultivent ce nouvel art du slow flower. Un brin bohème, facile à vivre et délicate, les fleurs séchées s'offrent une seconde jeunesse. Fanées, mais pas fades, elles sont l'accessoire décoratif de l'automne. Lumière sur une tendance en pleine éclosion au Québec. Dans son atelier d'Hochelaga Maisonneuve à Montréal, Lauriane Perron a tendu des cordes au mur auxquelles elle suspend des petits bouquets de fleurs avec précaution. Elle a répété l'exercice tout l'été au fur et à mesure des floraisons des espèces de son jardin à la campagne. Elle vend ses bouquets séchés en ligne ou en boutique comme des petits pains. Les gens ont souvent associé les fleurs séchées à un passé démodé, mais les fleuristes parviennent aujourd'hui à créer les choses aimées de toutes les générations, observe-t-elle. La preuve, les fleurs séchées rejoignent aujourd'hui les bouquets de mariés. Lauriane se réjouit d'ailleurs de ne vendre que des bouquets de fleurs séchées à la Saint-Valentin. Chez Prune les Fleurs, dans la boutique Concept Must Société à Griffintown, une échelle en bois est recouverte de roses séchées et des bouquets à emporter attendent les amateurs. L'offre s'est un peu faite par hasard. Quand j'ai ouvert cet espace, il y a 2 ans, je n'avais pas prévu de vendre de fleurs séchées, mais au fil du temps, les gens nous en ont demandé, explique la propriétaire Nadine Jazouli. La ferme Origine Fleurs à Saint-Joseph-du-Lac, les jeunes Clémence Rivard-Hilaire et Evelyne Guindon, a elle aussi épousé cette nouvelle tendance avec intérêt. L'automne dernier, le café montréalais Le Butterbloom l'a invité à vendre dans son coin boutique des bouquets de fleurs et graminées séchées. Depuis, la demande des fleuristes et designers floraux a grandi et Origine Fleur a intégré ses commandes bienvenues entre deux saisons dans sa production. L'image poussiéreuse des bouquets de grand-mère a cédé la place à des compositions sauvages et graphiques qui se prêtent à tous les décors. Grâce à Instagram, les fleuristes et stylistes sèment leurs idées aux quatre vents. Les gens viennent souvent ici avec des photos de référence épinglées sur Instagram ou Pinterest, confirme Nadine Jazouli, qui compte parmi ses clientèles beaucoup d'habitants de condos soucieux de compléter leur décoration avec une touche authentique. Ils recherchent un élément végétal dont ils n'ont pas besoin de s'occuper, confie-t-elle. Pratique, économique et durable, les fleurs séchées répondent aussi à l'air du temps. L'intérêt que nous avons remarqué pour celles-ci cet été rejoint aussi celui pour les fibres naturelles, osier, rotin, bambou, auxquelles on assiste au Québec. C'est ce que confie Elisheva San-Nicolas, propriétaire de la boutique d'objets pour la maison montréalaise Cœur d'Artichaut. Pour mieux répondre à la demande, elle a créé un studio dans l'arrière-boutique où elle fait sécher les fleurs de ses bouquets. Elle est convaincue que de l'apport bénéfique de celles-ci à l'intérieur. Avec leur côté fragile, elles amènent une douceur. Elles permettent aussi d'ajouter une couleur et une texture un peu comme les vases en verre ou les céramiques, qu'illustrent-elles. Branches nues ou pampas dans une marie-jeanne, eucalyptus en couronne ou dans un panier, rose dans une vieille bouteille ou dans une poterie délicate, composition suspendue à une branche ou sous cloche, herbier sous cadre, les herbes et fleurs séchées colonisent maisons et appartements au hasard d'expérimentation en atelier ou maison. Une fleur sauvée du jardin ou d'un bouquet suffit à improviser une décoration et à prolonger l'été. Donc quelques idées de bouquets d'hiver avec la technique du séchage soigné. Lauriane choisit des fleurs suffisamment épanouies pour obtenir une grosseur intéressante avec laquelle travailler, car en séchant, celles-ci rétrécissent. Un bon accrochage dans un endroit sec et si possible dans l'obscurité pour mieux préserver les couleurs des fleurs et le plus important, confie-t-elle. Dans son atelier de Schlaga Maisonneuve, deux murs et une grande grille fixée au plafond sont garnis de petits bouquets de fleurs et d'herbes suspendues, la tête à l'envers.
Et je poursuis pour ma part dans l'alimentation avec la pizza, et c'est très sérieux, après des années de recherche, la pizza entre au menu des rations de combat de l'armée américaine, c'est tiré du Monde. Mamma Mia, l'intendance de l'armée américaine vient d'atteindre le Saint Graal de la cuisine militaire en réussissant à incorporer la pizza au pepperoni dans ses rations de combat. Les Meals Ready to Eat, les MRE comme ils les appellent, rapporte le New York Times. Depuis le début des années 80, les soldats réclament de la pizza dans leur gamelle, aux côtés des burgers végétariens, tortellini au fromage ou travers de porc sans eau. Il faut dire que les MRE, qui se déclinent en 24 menus, ont mauvaise réputation. En argot militaire, les MRE sont devenus les « meals refused by everyone », les rations refusées par tout le monde. Car si elles ne réclament qu'un réchauffage sommaire, grâce à une réaction chimique, et sont censées caler l'estomac, elles sont rarement appétissantes et leur goût laisse souvent à désirer quand elles ne rendent pas malades. On est loin de la formule énoncée par Napoléon à qui on devait le fameux « c'est la soupe qui fait le soldat ». En 2013, le Stars and Stripes, journal officiel des forces armées américaines, se faisait déjà l'écho de cette revendication des bidasses américains et des efforts de recherche et développement déployés pour y répondre. Depuis la guerre de l'indépendance, les rations ont évolué. On était alors sur une base de farine, de viande séchée et de vinaigre pour purifier l'eau, mais le goût a toujours été leur point faible. Ce n'est qu'avec la première guerre du Golfe en 91 que la question du goût a été abordée. Les responsables militaires se rendant compte que le manque de saveur et l'aspect marronasse des rations finissaient par affecter le moral des troupes. Le chef d'état-major Colin Powell a alors convoqué le responsable du service chargé de l'intendance et lui a donné un ordre simple « arrangez-moi tout ça ». Pour répondre à cette directive, les nutritionnistes militaires ont modifié leur approche. Ils ont suivi les soldats au combat et fait leurs poubelles pour voir ce qu'ils mangeaient ou délaissaient dans les rations. Certaines ont été supprimées, comme le pain au jambon ou au poulet, d'autres ont fait leur apparition, comme le poulet thaï ou les tortellini végétariens. Aujourd'hui, les rations sont testées, goûtées et approuvées par les soldats. La pizza militaire n'a qu'un rapport lointain avec l'art du pizzaiolo napolitain qui est entré en décembre 2017 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À sa décharge, elle doit se plier à un cahier des charges draconien. Elle doit ainsi rester mangeable après avoir passé plusieurs années dans la cale d'un navire ou dans un conteneur entreposé au soleil, résister au froid polaire, au mousson ou encore à une chute libre de plus de 30 mètres. L'un des défis majeurs de cette pizza consistait à réussir la pâte. Trop sèche et c'est immangeable, trop humide et elle fait moisir l'emballage. L'armée a mis les petits plats dans les grands pour perfectionner sa pâte avant de s'attaquer à la garniture, fromage, sauce tomate, viande. Après des années de recherche, les nutritionnistes sont parvenus à équilibrer les taux d'humidité et d'acidité de manière à ce que les différents ingrédients puissent coexister en paix dans l'emballage durant environ 3 ans. Le menu 23, c'est le nom sous lequel est répertorié dans la nomenclature des MRE, est entré en production et devrait devenir un produit standard pour les troupes américaines. Avec cette pizza, les soldats trouveront une tourte aux myrtilles, une boisson protéinée au chocolat, un biscuit aux flocons d'avoine et des graissins aromatisés au piment. Certaines unités l'ont déjà reçue et des civils qui l'achètent en ligne les comparent aux pizzas des restaurants scolaires. Le New York Times a demandé à un pizzaiolo star de Boston ce qu'il pensait de cette nouvelle pizza. Verdict, l'objectif est presque atteint puisque le mets lui rappelle la saveur des pizzas surgelées. Un porte-parole du Combat Feeding Director Tate souligne que ces pizzas sont faites pour être mangées quand vous êtes trempé, quand vous avez froid, quand vous êtes affamé. Elles sont meilleures dans ces conditions. Mais plus que de l'assiette, c'est de l'état physique de ces troupes que l'armée américaine se préoccupe désormais. Comme les citoyens qu'ils sont censés protéger, les soldats américains sont menacés par la malbouffe et la sédentarité. C'est vrai dans les casernes, mais aussi à l'entrée, rappelons ainsi que près de 20% des hommes et 40% des femmes qui postulent sont en surpoids.
Je me rappelle, j'oublie. Je me mets une note sur mon sel de m'appeler. Je m'appelle, oui, allô, Michel? Oui, c'est qui? C'est Michel. Ah oui, pourquoi tu m'appelles? Je sais plus, j'oublie. Ah, dommage, ça te revient. Ça me revient, je te rappelle. OK, parfait, bon, ben, bye. Bye. Ouais. Je me rappelle. Allô, Michel? Encore toi? Ouais, c'est ça. Je me rappelle que je t'appelais pour te dire une chose qu'il fallait pas t'oublier, mais j'ai encore oublié. Ça t'arrive-tu, toi, des fois? Ben oui, je suis toi. Hein? Ce qui t'arrive m'arrive. Donc, quand tu m'appelles, veux-tu au moins te souvenir de ce que tu veux me dire avant de m'appeler? Sinon, tu fais juste fucker notre cerveau. Hey, wow, minute, là. Fucker notre cerveau. On peut se parler mieux que ça. Les chicanes intracérébrales, là, c'est à cause de notre téléphone. En plus, moi, je me mets des rappels sur mon cell dans le but qu'il me rappelle de t'appeler. Puis il fait. Il t'appelle, mais il dit pas pourquoi il t'appelle. Puis pendant ce temps-là, j'oublie. J'oublie. Sur mon sel, il y a des vidéos de monde qui se plante sur des skis en arrière d'un bateau qui va vite. Une souris qui court après un chat. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, des affaires pas possibles. Là. Ben maintenant, oui, là, des fois entre deux courriels ou ben quand on enchaîne un texto après l'autre. Le bonhomme a mal au dos, le frère est en prison, la copine est chez l'amant. Puis il y a des belles casseroles en rabais si tu commandes en ligne dans les 10 prochaines minutes. Pratique, hein? Fait que j'oublie. Un oiseau qui conduit une mini-voiturette téléguidée, c'est bien cute, ben non, c'est un petit gars de 8 ans, ben tannant, qui a collé le moineau sur un bas puis qui conduit avec la manette et il monte à la fin du vidéo. On sait plus qui croire, là. Qu'est-ce qu'il annonce demain? M'allez voir. Je me souviens de l'ancien numéro de mes amis que j'appelais quand j'étais petit, de François, de Simon, de Vincent, de Frédéric, de Céline, d'Émilie. Ils ont changé de numéro, ils ont un sel et ça me prend le mien pour leur faire des appels. C'est mon sel maintenant qui se rappelle de tout ça. Mes rendez-vous, mes paiements, les photos de mes enfants, ah ouais, dans l'appareil et tout ce que j'ai besoin, c'est de l'avoir dans mes mains ou pas loin et de garder un contact visuel jusqu'à la fin de ma vue, ça me garantit en partie ma mémoire. Je peux me coucher la tête vide à tous les soirs, c'est génial, c'est magnifique, pas tant que ça. Je me rappelle de rien, et puis mon sel se rappelle de tout. J'ai le goût de le garrocher au bout de mes bras, j'ai peur de plus savoir je suis qui. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle, j'oublie, j'oublie. Ouais, c'est ça, un couplet, un refrain. Je me rappelle, j'oublie. Fine.
Michel Robichaud, j'oublie.
Merci beaucoup. Alors, un dernier texte pour moi qui est celui de la lumière du soleil qui pourrait être utilisée pour faire de l'énergie renouvelable. Des scientifiques viennent de développer une technique pour produire de l'énergie en reproduisant la photosynthèse des plantes. Le procédé permet de produire de l'oxygène et de l'hydrogène en utilisant seulement l'énergie solaire et de l'eau. Aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène est produit à partir d'énergie fossile. Les chercheurs de l'Université Cambridge entrevoient ainsi la possibilité de révolutionner la production d'énergie renouvelable. Nous n'imitons toutefois pas exactement la nature, car dans ce cas, le produit final est le glucose, intime la chimiste Katariza Sokol. Les chercheurs sont parvenus à réactiver de manière artificielle un procédé en dormance depuis des millions d'années qui est possible grâce à une enzyme appelée hydrogénase. L'hydrogénase est une enzyme présente dans les algues qui peut utiliser les protons pour produire de l'hydrogène, explique Madame Sokol. Au cours de l'évolution, ce processus a été désactivé car il n'était pas nécessaire pour survivre, mais nous avons réussi à contourner cette inactivité pour obtenir la réaction que nous souhaitons, diviser l'eau en hydrogène et en oxygène. La méthode nécessite plus de lumière solaire que la photosynthèse naturelle.
Et bien heureusement qu'il y a des scientifiques qui travaillent à autre chose que la pizza. Merci à tous pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour les voies de service. Bonne semaine à tous.